What if you could learn more about your health in under an hour? The Pronuvo Whole Body Scan gives you a comprehensive look at your health, screening for over 500 conditions, including many solid tumors as early as stage one. High-quality imaging, no radiation, no contrast. Book your scan today at Pronuvo.com. That's Prenuvo.com. Gain clarity, confidence, and peace of mind with Pronuvo. Invest in your health today. Visit Prenuvo.com. That's Prenuvo.com.
This is the new Weight Watchers. It works for members like JoJo, who's learning simple, healthy habits, Sharia, who's making progress with meds, and Kim, who still gets to eat what she loves. For over 60 years, we've helped millions of members find what works for them. Now it's your turn. Watch your life open up. Watch your story shift. Watch what you're capable of. Watch it work. Get started today at WeightWatchers.com.
Section 8 de La science et l'amour par Léontine Zanta. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Pauline Latournerie. Dimanche 21. Bonne fin de semaine. Nous sommes tous en forme. Méruel fait à Jacques beaucoup de bien. Betty m'en fait beaucoup à moi. Dire que je l'accusais de trop d'équilibre et ne la croyais pas capable de pénétrer mon inquiète nature. Elle a précisément, avec ce merveilleux équilibre, de quoi la connaître sans parti pris. Une lettre m'est arrivée de René Labasse. Enfin, jeudi, elle commence ses leçons. Elle aura beaucoup de choses à me dire, paraît-il. Lundi 22. Dans notre petit groupe règne toujours le même entrain. Il était au complet aujourd'hui, et tous les six nous avons engagé, après notre cours, une discussion passionnante. Il faut que je la note. Notre éminent professeur venait de nous donner ses conclusions sur Locke, fondateur de la philosophie critique, mais il n'avait point, à notre gré, accordé aux problèmes religieux toute son importance. Il s'agissait pour nous de savoir si Locke avait eu, oui ou non, raison, comme croyant, de porter le premier coup de sape à la métaphysique, en critiquant les idées innées, et si ce coup mortel porté à l'absolu n'avait pas été mortel aussi pour la foi. C'est Méruel qui avait ouvert le débat. Nous descendions les marches de l'amphithéâtre Turgot, et déjà il s'écriait « Comment diable ce Locke, qui n'était pourtant pas un imbécile, trouvait-il le moyen de penser Dieu sans admettre la cause première ?» Ce fut le cri de ralliement. Germaine, qui était en avant avec Alice Bernard, se retourna brusquement toute joyeuse, flairant une de ces grandes discussions religieuses dont elle raffole. On fit halte dans le vestibule en rotonde. Un pur soleil d'hiver éclairait ses murs blancs. Les deux bancs de chêne, de chaque côté du grand escalier à rampe de fer forgé qui conduit à la bibliothèque, nous invitait à nous asseoir. Dans ce matin calme, dans cette salle blanche et claire, une causerie philosophique, mais c'était un pur délice. Nous n'y résistâmes pas. Alice, Betty et moi, nous nous assîmes sur un des bancs de chêne. Germaine, entre les deux hommes, resta debout pour pérorer. Ce fut elle qui d'ailleurs répondit la première à l'exclamation de Méruel. Vous vous étonnez que Locke ait gardé la foi tout en niant l'idée innée de la cause première, mais c'est tout simple. Il a obéi aux deux logiques, celle de l'intelligence qui lui montre clairement que la cause première ne se pense pas, celle de la sensibilité, faite de ses habitudes, de ses désirs, qui lui dit tout le contraire. Alors, pour ne pas avoir l'embarras du choix, il accepte les deux solutions. Après tout, il a raison. Pourquoi vouloir mettre d'accord les deux logiques? C'est impossible. On a 16 heures, on choisit tantôt l'une, tantôt l'autre, et c'est la meilleure manière de se tirer d'affaire dans la vie. Et l'on va ainsi tout droit au scepticisme, reprend vivement Alice, tandis que nous étions, Betty et moi, très étonnés de cette réflexion de Germaine, qui jusqu'alors ne s'était guère occupée de l'affectif, ce côté de l'âme qu'elle trouvait inférieur, négligeable. Quant à moi, repris-je, je maintiens qu'il n'y a qu'une solution. Où il y a une cause première et Dieu est, où il n'y en a pas et Dieu n'est pas. « Voilà bien l'absolutisme, le dogmatisme féminin !» s'écrie Jacques en riant. « Pourquoi ne voulez-vous admettre qu'une logique, puisque c'est un fait d'expérience qu'il y en a deux? Et puis, de quel droit proclamer infaillible la logique de l'esprit, alors même qu'elle vous donnerait l'idée innée de la cause première? Dieu, elle est relative à notre intelligence. Nous n'en saurons jamais plus long que ce que mesure notre esprit. » « Oh, philosophe de Königsberg !» s'écrie Méruel en lui tapant amicalement sur l'épaule, car il le dominait de la hauteur du front au moins avec sa grande taille. Ah, reprend Jacques, un peu interloqué de cette raillerie, vous avez beau plaisanter le philosophe de Königsberg, il a vu juste le jour où il a jeté l'orgueilleuse métaphysique par terre. Sans lui, nous serions encore perdus dans les brumes de la spéculation, et le positivisme ne serait pas né, ce positivisme qui sauve la science avec son esprit d'ordre et de méthode, de critique sage. Jacques, vraiment, vous allez trop loin dans votre culte du positivisme, m'écriai-je visiblement contrarié. Dites-moi où nous en serions si nous n'avions que les pieds de plomb qui rivent le savant à la terre, si des ailes ne l'emportaient point dans le domaine qu'habite le génie et Dieu, la cause première. Allons, allons, pas tant d'éloquence, reprend Betty, intervenant à son tour. Petite Mad, vous eussiez fait un bon prédicateur, vous avez l'étoffe d'un théologien. Quant à moi, je vais vous mettre d'accord en vous disant que vous avez tous raison, Alice, Germaine, Mad, Jacques et Meruel, et Kant, et Locke, et même le grand Bossuet, qui veut revivre dans la fougueuse éloquence de Mad. « Alors nous voilà bien, » conclut Meruel désappointé. « Betty sceptique maintenant, Betty donnant raison à tout le monde, sauf à la grande raison. Alors plus de vérité, chacun la voit au travers du carreau de sa petite loge. Adieu la grande, la belle vérité, qu'on ne voit qu'en plein ciel dans l'espace infini. » « Mais oui, » reprend Betty sans se déconcerter, « nous verrons toujours la vérité de notre petite loge. Nos rêves nous entraîneront parfois dans l'espace infini, mais le moment viendra toujours où nous retrouverons nos habitudes, notre milieu et les quatre murs étroits de notre chambre. Locke était comme nous, il était de son temps. Il en avait assez des fureurs du dogmatisme et de son intolérance. Il était chimiste, physiologiste, médecin, toujours penché sur le corps humain, étudiant son merveilleux mécanisme. Il en voyait surtout les rouages dans lesquels tout est fonction, tout est relation. Alors il a mis dans le relatif le triomphe de l'intelligence. « Bravo !» s'écria Germaine. « Betty, vous êtes des nôtres. »«
Mais il n'a pas fait de cette intelligence un absolu !»
répliqua assez sèchement Alice Bernard en regardant Germaine. « N'oubliez pas qu'il a voulu garder la foi. »«
Il y a réussi, lui, » repris-je. « Mais il a oublié ceux qui allaient le suivre. »«
Lorsqu'on veut croire avec son cœur seulement, sans les lumières de l'esprit, on reste seul dans sa croyance, on prépare les ténèbres à l'heure qui suit. » Et je pensais avec une tristesse infinie à Jacques, qui n'avait plus Dieu en lui, qui ne pouvait plus croire. Il avait recueilli l'héritage de cette philosophie du sceptique XVIIIe siècle, que gardait la bourgeoisie égoïste dont il était issu, et l'université, enivrée de science, qui avait formé sa jeune intelligence.
« Allons, vous le voyez bien, Betty, » reprit encore Meruel avec assez de violence. « Locke, en ruinant l'idée innée, a ruiné Dieu, et vous avez tort de le défendre. »
Mais puisqu'il l'a retrouvée par un autre chemin, murmura-t-elle presque à voix basse, car elle avait senti comme un reproche dans ces derniers mots de Meruel. La foi peut être positive comme la science. Le Christ s'est révélé positivement puisqu'il a vécu. Il s'est proclamé Dieu. Alors pour tous les simples, pour la majorité, la masse, Jésus s'en va parcourant la Palestine avec sa grande robe blanche, multipliant les pains, les poissons, guérissant les malades, calmant les flots. Ce Jésus est plus vraiment Dieu que la cause première, qu'une raison trop orgueilleuse veut trouver toute faite en nous. La foi en Jésus vivant, mais c'est du positivisme. Et Locke nous a peut-être rendu service en nous orientant dans cette voie-là.
Et nous perdons notre temps à philosopher. Voilà la conclusion de Betty, s'écria Meruel, cette fois avec un large sourire qui marquait son contentement lorsqu'il admirait Betty. Il sonne midi, voilà une heure que ces vénérables pierres nous écoutent.
Mon Dieu, comme je voudrais ressembler à Betty. Son œil est lumineux et simple comme celui dont parle l'Évangile. Après tout, pourquoi ne pas revenir tout simplement au positivisme chrétien, dont le code merveilleux est l'Évangile? Jeudi 24 janvier 1917. Aujourd'hui, ma première leçon de philosophie qui fut un enchantement. J'ai passé deux soirées exquises à la préparer, où j'ai repris mes notes, mon cours. Mon journal en a pâti, mais mon esprit y a gagné, ma volonté aussi. Renée est arrivée à 10 heures exactement. Elle s'était levée à 5 heures du matin. Quel héroïsme! Mais que lui importe cet effort? Elle en a pris l'habitude avec ses blessés. Elle dort fort peu et toujours à demi. Un peu embarrassée devant ses yeux noirs attentifs qui me regardaient, j'ai pensé tout à coup qu'il fallait laisser là mes notes et mes livres, et causer, oui, tout simplement causer d'âme à âme, mais avec méthode, et que de cette causerie
il jaillirait de la lumière en nous. René n'était pas une apprentie en choses d'âme. Son regard profond témoignait de sa vie intérieure. Elle avait de plus manié les manuels, les problèmes de la philosophie ne lui étaient point étrangers. Nous allions donc tout simplement les examiner en faisant appel à notre propre expérience, et ces leçons deviendraient ainsi d'amicales causeries où nous échangerions nos confidences. Nous voilà donc toutes deux à faire notre examen de conscience, puisqu'il nous fallait déterminer, en cette première leçon, ce qu'est la vie de l'âme, avec son va-et-vient continuel d'ombre et de lumière, dans un temps qui ne se mesure plus, où des sensations de toutes les teintes, des sentiments de tous les ordres, des désirs violents ou inachevés, des idées les plus diverses se croisent, s'attirent, se repoussent, s'organisent ou se désorganisent, sans un instant de répit. Mais lorsque je voulus lui décrire ce que je trouvais en moi, au moment précis où je lui parlais, je fus effrayé du spectacle. Quantité d'images se succédaient, qui me donnaient les impressions les plus diverses. Fantômes pâles, aux contours fuyants, formes nettes, dans lesquelles je voyais des lieux aimés, des amis chers. Je reconnaissais là l'étoffe chatoyante, émouvante, dont s'enveloppaient mes rêveries. C'est ainsi que les saints, les poètes, les amoureux, tissent eux aussi ce merveilleux canevas que les philosophes appellent la mémoire affective, lorsque tout à coup vibre leur âme unifiée et soulevée par un grand sentiment. Or, l'image dominante que je voyais se détacher en moi, au moment précis où je parlais, c'était l'image de Jacques. Elle était bien vivante, au premier plan. Elle groupait autour d'elle nos camarades de la Sorbonne. Elle se mouvait dans les lieux que nous parcourions journellement, ensemble, Salger, amphithéâtre Turgot et bibliothèque. Voilà le plan lumineux de ma conscience aujourd'hui. Les autres restent dans l'ombre. La famille, les êtres qui la composent, mon père, ma mère, mes exquises petites sœurs, mes chers combattants même, n'étaient que des images pâles dans ce plan de lumière. C'est cet état intérieur que j'essayais de traduire abstraitement, en le démarquant autant que possible, à ma nouvelle élève, René Labasse. À son tour, elle s'analysa. Ce fut simple. Sa conscience est toute pleine de l'image de ses chers blessés, des tableaux des rudes combats qu'ils ont eus à soutenir, et dont ils ne cessent de lui raconter l'émouvante histoire. Tout le reste ne compte plus, ou presque plus. Sa famille, son avenir, son examen. À l'instant même où elle m'écoute, il lui faut toute sa volonté pour être auprès de moi. Son imagination et son cœur l'emportent près de ces malades qu'elle entend, qu'elle voit. Tels sont les faits qui résolvent d'eux-mêmes ce problème de la conscience, au riche contenu, au merveilleux mécanisme, dont le rythme capricieux d'analyse et de synthèse, d'association ou de dissociation, de mémoire ou d'oubli, d'attention ou de distraction, ne s'accomplit que par les mouvements de la passion, de l'amour, suivant la loi d'intérêt, diront les psychologues. Ainsi rien ne se perd. Le passé se conserve alors même qu'il reste dans l'ombre, mais le présent choisit ce qui lui plaît, suivant l'amour qui l'entraîne. Nous avions toutes deux un grand amour dans le cœur. Comme un rayon lumineux, il n'éclairait qu'une partie de notre conscience, mais le reste vivait pourtant encore, et c'est ce que j'essayais de faire comprendre à René. Nous sommes solidaires de notre passé. En bien comme en mal, notre conscience est l'économe fidèle qui garde en ses greniers jusqu'au moindre fruit que nous lui confions. Mais elle sait aussi, le moment venu, les choisir et les dispenser. À côté des fruits gâtés, il y a les bons fruits mûrs. Ceux-là, elle les donne sans compter à quelque généreux amour, tandis que les autres se dessèchent et se réduisent en poussière. C'est donc le soleil de l'amour qui doit pénétrer en nous pour unifier, organiser notre vie intérieure. Voilà ce que nous comprenions fort bien toutes deux. Mais seule ce soir, je me demande si l'amour que j'ai choisi, ou plutôt que la vie a mis en moi, est bien celui qu'il faut pour unifier mon âme. Celui de René Labasse n'est-il pas mille fois plus haut, plus pur? Oh mon Dieu, pourquoi alors me l'avez-vous refusé? L'amour que vous m'offrez par la voie des événements, et que vous voulez si haut, si détaché, n'est-il pas trop idéal pour être vécu par moi? Dimanche 27 janvier. Je suis allée à la messe de 8 heures ce matin. C'était la messe des hommes. Elle m'a profondément édifié. L'enfant de chœur, pour la troisième fois, accompagnait du son argentin de sa sonnette le Non sum dignus du prêtre, et déjà autour de l'autel, sur les marches de pierre, se pressait une foule recueillie d'hommes à tête blanche, de femmes de tous les âges, la plupart enveloppées de leurs longs voiles de deuil, d'enfants de 12 à 16 ans. Spectacle d'une sublime beauté, et qui me fit réfléchir, comme si je le voyais pour la première fois. Un même besoin de divin, d'éternité, groupait autour de la table sainte des personnages si divers. Ainsi disparaissait tout ce qui, dans le temps, sépare les hommes, l'âge, les opinions, les privilèges, les dons de la fortune, les vanités du monde. Quel miracle! Et je songeais alors à celui qui l'avait opéré, au pauvre Galiléen. Défiant la raison jusqu'à contredire le témoignage des sens, il avait affirmé aux 12, groupés autour de lui au banquet de la Seine, que le pain qu'il mangeait avec lui était son corps, le vin qu'il buvait son propre sang. Après 20 siècles, cette parole, qui semble une folie, est encore efficace. Le miracle toujours se renouvelle sur l'autel où le prêtre sacrifie l'agneau et dans le cœur des fidèles qui le reçoivent. Moi, je n'étais pas de ce nombre et pourtant j'étais chrétienne, chrétienne de naissance, d'éducation, de tendance. Pourquoi cette abstention? Alors, un sentiment profond d'admiration, de respect, de repentir me mit les larmes aux yeux. Oui, j'étais coupable, d'indifférence certainement, d'orgueil peut-être, et j'avais bien des frères dans mon orgueilleuse et coupable indifférence. J'en avais, parmi mes camarades de Sorbonne surtout. Notre vie surchargée, le niveau moral assez élevé, en somme, où nos études philosophiques maintiennent le cœur et l'esprit, faisait non pas que nous oublions la grande et simple morale chrétienne, mais que nous négligions les moyens de la vivre. Alors, faute de l'entretenir, nous manquions de force, et nos cœurs, vides de l'amour divin, mais tout pleins de ces désirs inconscients d'amour infini que le christianisme dépose en nous comme son infaillible marque, étaient condamnés à la mélancolique souffrance des amours humains. Et voilà pourquoi je souffrais. Et Jacques plus que moi peut-être, car il avait totalement abandonné Dieu. De toute la journée, le souvenir de cette messe ne m'a point quitté. Si Dieu m'avait vraiment appelé en cette minute de subite illumination, que faudrait-il faire pour répondre à cet appel? Ah, je le sais bien, obéir à ma nature enthousiaste, m'en aller par les chemins, dans les places et les rues de la ville, amener au festin les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux, c'est-à-dire ceux qui peinent, souffrent, ont faim d'amour et de pain, puisque les vrais convives n'entendent pas la voix du maître qui les convie. Tout à ces pensées, j'ai mal travaillé. La sagesse humaine à côté de la sagesse divine me paraît si misérable. Mercredi 30 janvier. Je ressens une grande lassitude. Je n'ai plus aucun entrain à mon travail. Jacques en est tout plein, au contraire. Jamais je ne l'ai vu si simple, si gai, si bon enfant, si raisonnable qu'en ce moment. Je fais des efforts extraordinaires pour me maintenir au même diapason que lui, pour qu'il ne s'aperçoive de rien. Mais le soir, dans ma petite chambre, ma tristesse trop contenue éclate en sanglots. Il me semble que tout m'abandonne, la philosophie, Jacques et Dieu même. On dirait que l'on frappe à ma porte. Tout le monde est couché pourtant, je tressaille. Mais oui, c'est bien le grincement de la porte qui s'entr'ouvre, et une forme légère, gracieuse, se glisse dans ma chambre. Jacqueline entre, en chemise de nuit, qu'elle relève gravement en découvrant son petit pied rose. Elle me regarde, moitié riant, moitié sérieuse, un peu inquiète, car elle ne sait ce que je vais dire de son équipée. Sans doute mon visage la rassure, car aussitôt elle s'écrie, en me montrant un petit bout de ruban, « Mad, le nœud s'est défait. Ma mèche de cheveux est venue me chatouiller la figure et je me suis réveillée. Je suis venue pour que tu me refasses le nœud. Je pensais bien que tu ne dormais pas encore et que tu ne te fâcherais pas. » En me disant cela, elle avait grimpé sur mes genoux, et pendant que je refaisais ses boucles, elle regardait avec curiosité les papiers épars sur ma table de travail et me demandait ce que je lisais dans ce gros livre. C'était un dictionnaire. Et si c'était amusant. Ses petits yeux brillaient. Elle était réveillée comme un oiseau au lever de l'aurore. Je ne lui répondis pas, mais la prenant tendrement dans mes bras, je la portai jusqu'à sa chambre. Geneviève dormait paisiblement, ses grands yeux clos comme un petit ange. Jacqueline, à peine la tête sur l'oreiller, en fit autant. Je m'en suis allée alors doucement, à reculons, jusqu'à la porte. Le tableau de ces deux petits êtres, reposant dans le calme et l'abandon, et souriant au sommeil qui sans doute les berce de doux rêves, me fit du bien. Pourquoi ne reposerais-je pas moi aussi mon âme inquiète dans l'abandon à une providence qui règle tout et nous parle par la voix des événements pour peu que nous sachions bien les entendre. Ma vie est là qui se dessine dans un cadre et dans un milieu déterminé, avec des responsabilités, des devoirs auxquels il serait lâche de me dérober. Si Dieu avait voulu de moi le dépouillement complet, il aurait su me le dire. Et c'est mon orgueil encore, ma soif d'absolu, qui me fait rechercher la perfection en la vie religieuse, ou plutôt qui me fait croire que je pourrais y atteindre. Faire chaque jour sa besogne humblement, sans bruit, voilà une autre perfection, plus difficile à vivre. C'est la soumission absolue au relatif des événements. C'est aussi la soumission à la volonté de Dieu. Ma prière ce soir ne sera qu'un mot, le fiat, d'abandon à la volonté du Père. Fin de la section 8, enregistrée par Pauline Latournerie. Section 9 de La science et l'amour par Léontine Zanta. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Pauline Latournerie. Jeudi 1er février. À 2 heures tapant, arrivent Betty et Méruel, puis 5 minutes après, Jacques. On s'extasie sur la parfaite harmonie, la claire gaieté de ma petite cellule. D'un long et attentif regard, Jacques enveloppe ma chambre. Puis il ferme un peu les yeux, comme s'il voulait en graver intérieurement l'image. Nous nous installons tant bien que mal autour de la petite table, que je débarrasse rapidement de tous ces bibelots. Jacques, en face du gros dictionnaire, chacun de nous en face de la feuille de papier blanc et du texte de la version. C'était le passage fameux des Tusculanes, où Cicéron traite de l'immortalité de l'âme. Sans peine, nous fûmes d'accord sur le sens général de ce morceau. Il répond si bien au besoin le plus ardent de notre nature humaine, qui veut se survivre, dépasser le temps, que ce soit par la gloire réservée au génie ou par l'éternité promise à l'espérance chrétienne. Les discussions de détail furent plus chaudes. Le mot juste à trouver pour traduire exactement, avec nuance, les épithètes d'un orateur aussi abondant et varié que Cicéron, ce n'était pas chose facile. Jacques fut un merveilleux professeur et je pus reconnaître, non sans une joie profonde, qu'il avait dans l'intelligence plus de souplesse, de finesse et de pénétration que Méruel. Mais quel grand cœur que ce Méruel! S'il a moins d'intelligence et de sensibilité que Jacques, il a plus d'âme. Betty a choisi la meilleure part, elle ne sera jamais déçue. Quant à moi, je sens, je devine de l'égoïsme chez Jacques. Il m'aime, oui, mais m'aimera-t-il jusqu'au sacrifice? M'aimera-t-il assez pour renoncer à l'amour, par amour, s'il le fallait? Samedi 3 février. Comme c'est doux ce pas en avant, comme c'est peu de choses ce qu'il fallait faire pour retrouver Dieu. Eh bien oui, ce soir je suis allée m'agenouiller au hasard, dans ce que j'appelle en riant la petite boîte. J'ai fait table rase de tout ce qu'il y avait en moi de fausse honte, de respect humain, et j'en suis sortie l'âme tout apaisée. Elle est si simple, cette démarche, si nous voulons la considérer dans ce qu'elle signifie, sans nous monter la tête. Un examen de conscience à voix haute. Un être vous écoute, qui a dépouillé toute personnalité. Il n'est qu'un vivant symbole. Il écoute, avec les oreilles de l'âme, le cri d'une conscience. Et le cri de cette conscience, quel beau cri de sincérité! On le prépare dans le recueillement et le silence. L'âme, après avoir fait effort pour se saisir tout entière dans une belle activité qui organise, retourne sur elle-même cette force vive qu'elle vient de créer et s'analyse. Elle s'analyse et se juge, car elle a l'œil simple et lumineux dont parle l'Évangile. Elle voit le désordre qui est, mais en même temps l'ordre qui doit être. Il m'avait semblé en effet, à mesure que je descendais en moi, que je découvrais tout un monde d'objets et de personnages qu'il me fallait classer, reconnaître, étiqueter, au seul rayon de la lumière intérieure. Seul, vis-à-vis de moi-même, ce n'était rien.
mais vis-à-vis du prêtre. J'avais longtemps senti mon âme défaillir à cette pensée. Pourtant, cette délibération sourdement faisait son chemin et, jeudi, mes ruelles avaient commencé de m'ébranler. Il avait parlé avec tant de feu de la nécessité du sacrifice que je m'étais trouvé lâche de reculer devant la confession, cette forme de sacrifice qui était si peu de chose et me coûtait tant. Abaisser mon orgueil par l'aveu sincère de ce que j'étais à celui qui représentait Dieu, voilà tout ce qu'il y avait à faire. Acte d'humilité chrétienne, qui ne nous diminue en rien, car s'il nous découvre petits devant Dieu, il peut nous laisser grands devant les autres hommes. Alors, toute la journée de vendredi, j'étais hantée de cette pensée, et pourtant je n'arrivais pas à trouver le motif déterminant qui pût donner le branle à ma volonté. Aujourd'hui, à 5 heures, à la sortie du cours, je passais par la rue Saint-Jacques pour rentrer chez moi, j'étais triste. Ces rues mal éclairées, un temps humide, ma solitude, l'état douloureux d'une âme incapable de se décider, tout cela fit que, passant devant la vieille église, je suis entré m'agenouiller et prier Dieu. Dans cette demi-obscurité pleine de mystères, un prêtre passa, vêtu du surplis blanc, une pénitente le suivait, et sans délibérer davantage, comme si c'était là l'ordre que j'attendais, je suis allé à mon tour m'agenouiller au confessionnal. J'exposai aussi clairement que je pus le désordre de mon âme, et l'absolvoté, prononcé d'une voix grave, remit de l'ordre en moi. Je me levai toute pleine d'une force joyeuse, tandis que le prêtre m'accompagnait de son dernier vœu. « Allez en paix, mon enfant !» Oui, je l'avais, la paix forte et joyeuse, celle que le monde ne peut donner, mais Dieu seulement. Le grand miséricordieux, le doux, le pacifique. Et voilà le grand miracle de la confession. Je le comprenais maintenant. Il n'est rien de meilleur après les heures de trouble. Dimanche 4 février. À mon tour, j'ai pris place au banquet divin. Pour la première fois, au milieu d'inconnus, je n'éprouvais pas l'affreuse solitude. La grande famille chrétienne, autour de l'autel, frémissait du même désir. L'amour la soulevait vers son Dieu, et il n'y avait ni déficit ni jalousie dans cet amour. Chacun recevait plus qu'il ne demandait. Jésus, le grand riche en dons de l'esprit, est aussi le grand prodigue en amour. Il donne sans compter, car ses trésors ne s'épuisent jamais. Je rentrai donc chez moi, comblé, enrichi, apaisé, harmonisé. Maman comprit ce que j'avais fait, car elle me vit prendre le petit déjeuner à mon retour. Elle en éprouva une joie immense, mais nous n'en parlâmes ni l'une ni l'autre. Il y a de ces bonheurs intimes que l'on déflore en les exprimant. La parole, le plus souvent, trahit notre âme. Cette réflexion m'apparaissait si vraie que je me mis alors à regretter d'avoir laissé Jacques me parler de son amour. Son sentiment, le mien, eussent été, dans l'imprécision, d'une si grande douceur. Mais comme il était trop tard pour retourner en arrière, ce sentiment, tel qu'il était, je le confiais à Dieu. Lundi 5 février. La journée en Sorbonne n'a pas été ce que j'espérais. Jacques ne semble pas goûter du tout l'affection calme et forte que je sens pour lui en ce moment. Il me trouve froide, indifférente, et se montre tout prêt à se révolter. Le sensitif qu'il est a l'intuition que dans toute une partie de moi-même je lui échappe, car je domine l'amour humain. Il en souffre, et pour me donner le change ne manque pas une occasion de me contredire, et comme on ne se querelle bien qu'avec des idées que fixent les mots, ce fut aujourd'hui une vraie bataille de mots. Il en voulait à mort à Berkeley. « Cet utopiste, cet idéaliste, disait-il, a trouvé moyen dans une métaphysique audacieuse, après avoir dissipé l'idée abstraite ou générale dans les brumes d'un vague subjectif, de restituer Dieu dans l'objectif. Or ce Dieu, à l'analyse, se résout, comme tout autre concept, en une idée abstraite, éclose dans notre esprit, et que fixe un mot. Il n'a donc aucun droit à la réalité objective. » Toute notre discussion fut vaine. Jubeau lui donnait gain de cause en reconnaissant comme incomplète, défectueuse la théorie de Berkeley sur l'entendement, lorsque je voulus dégager tout ce qu'il y avait de nouveau, d'original dans le spiritualisme de ce philosophe, il me coupa la parole en me disant qu'il en avait assez de toutes les rêveries spiritualistes, qu'elles déformaient l'esprit, détachaient le cœur de la réalité vraie. Je compris fort bien ce qu'il voulait dire, et surtout où il voulait en venir. Mais,
redoutant une discussion d'ordre sentimental, je préférais garder le silence. Et puis, égoïstement peut-être, je voulais conserver cette sérénité que je sentais tout au fond de moi-même et que son trouble n'atteignait pas. Nous débouchions à l'endroit où le boulevard Saint-Michel coupe le boulevard Saint-Germain, lorsque la neige commença de tomber à gros flocons. Impossible d'aller à pied jusqu'à la rue Saint-Dominique où je devais donner ma leçon, et comme l'heure me pressait, je dus précipitamment quitter Jacques pour sauter dans le tramway qui passait, et je n'eus pas le temps de lui dire adieu. Sans doute il a pu comprendre la raison de ce brusque départ, mais lorsqu'on est triste, ces raisons de la raison ne sont d'aucun réconfort pour la sensibilité meurtrie. Or, Jacques souffre en ce moment. Comment le soulager? Si je pouvais faire revivre Dieu en son âme. Le positivisme retrouve ses droits dans l'intuition du fait de conscience. Jacques ne nierait pas le fait religieux s'il le constatait en lui. Mais comment le provoquer s'il n'accepte pas lui-même de faire cette expérience? Mercredi 7 février. Jacques n'est pas venu à la Sorbonne depuis 2 jours, je m'inquiète. M'a-t-il gardé rancune de mon brusque départ avant-hier? Est-il malade? Méruel a promis de passer chez lui ce soir. Germaine a pris sa revanche de ce que nous étions sans homme pour discourir. Elle a péroré. La philosophie la grise. « Rien ne résiste à l'analyse », nous a-t-elle gravement déclaré à Betty, Alice Bernard et moi. « Mes croyances sont en voie de se pulvériser au tamis de la critique, mais je n'en suis pas plus malheureuse, ma volonté n'en est que plus ferme, je n'ai plus de combats intérieurs. » « Belle victoire, » reprit Alice Bernard, « que celle que l'on remporte sans combat. Mais qu'est-ce qu'une vie sans lutte, ma pauvre Germaine? Qu'est-ce qu'une volonté qui n'a plus d'idéal pour la soutenir? Vraiment, s'il m'en fallait arriver là, je n'aurais plus le courage de vivre. » Et ses beaux yeux se voilèrent. Des larmes y montèrent. Sa tristesse me fit mal. Je la comprends si bien. Nous ne pouvons pas renoncer au bonheur complètement. Alors quand il nous échappe, comme à Alice, au moment où nous croyons le toucher, il n'y a plus qu'à reculer son échéance jusqu'à l'au-delà. Alice y vit à moitié dans cet au-delà. Betty, qui m'a reconduite chez moi ce soir, m'a dit qu'elle tournait au spiritisme. Son fiancé lui parle par les bons capricieux du petit guéridon qu'elle consulte anxieusement chaque soir. Elle croit au fluide mystérieux de l'esprit qui, franchissant les espaces, relie l'éternité au temps. « J'ai essayé de la raisonner, » ajouta Betty. « C'est impossible. Elle se bute, elle se ferme et je n'ai rien obtenu. » Très intéressée par cette révélation, j'ai reproché à Betty d'avoir été un peu cassante. « D'autant plus, » ai-je ajouté, qu'il ne faut pas rejeter de parti pris toutes les expériences de ce genre. Qui sait s'il n'y aurait pas, dans cette direction, pour le psychologue, un champ très vaste à exploiter? Certes, je ne crois pas que l'âme des disparus puisse entrer en communication avec la nôtre par l'intermédiaire d'une table, si tournante soit-elle. Mais ce que nous ne pouvons pas nier, c'est qu'il y a des courants de fluides très différents qui nous enveloppent, nous traversent, émanant des forces cachées de la nature, par conséquent de la force du Créateur. Que de mystères dans ce monde, que d'influences diverses nous pénètrent souvent, que nous le voulions ou non. Puis, tout à coup, l'idée me vint qu'une lettre de Jacques m'attendait à la maison, et je m'écriai. « Ne croyez-vous pas, Betty, que sympathie, amour peuvent s'expliquer ainsi? Nous sommes passifs tout d'abord, emportés par je ne sais quel courant. Ce n'est que lorsque nous prenons conscience de ce qui se passe en nous que nous sommes nous-mêmes. Alors nous consentons ou ne consentons pas à ces forces qui nous pressent. » Nous étions arrivés devant la maison. J'ai laissé ma petite Betty toute songeuse. Elle n'avait jamais agité un problème aussi mystérieux. Je lui ai serré la main avec beaucoup d'affection, car je l'aime vraiment d'une profonde amitié. Puis d'un seul bond, je me suis précipité sous la voûte. 4 à 4, j'ai gravi les 5 étages. J'avais la certitude maintenant que j'allais trouver ma lettre. Oui, elle était là sur le petit plateau de cuivre de l'antichambre. Elle ne contenait qu'une phrase. Jacques n'en peut plus moralement. Il me supplie de le recevoir demain soir à 5 heures, seul, dans ma petite chambre. Que faire? Refuser? Prolonger son inquiétude? Reculer une explication qui devient nécessaire? À quoi bon? Il vaut mieux que son âme s'ouvre complètement à la mienne. Je serai le médecin et le guérirai. Jeudi 8 février. Jacques est venu ce soir et je suis bouleversée. J'avais bien senti tout l'après-midi en l'attendant, comme de la fièvre. Je ne pouvais pas travailler. Puis quand j'entendis le coup de sonnette, je courus à la porte lui ouvrir moi-même. Et tandis que je le débarrassais de son manteau trempé par la neige qui tombait en rafale, je n'ai su que lui dire cette phrase banale. « Comme vous avez eu du courage de vous mettre en route par un temps pareil, venez vite vous chauffer. » Et je l'ai entraîné dans ma chambre où j'avais allumé un bon feu. « Du courage ? Oh non » a-t-il repris simplement. « J'en aurais eu beaucoup plus en ne venant pas. » Puis il s'est tu. Quand il eut pris place à côté de moi sur le divan, il continua. « Oui, Madeleine, il eût été plus sage pour moi de ne pas revenir ici, de ne plus vous revoir. Voyez-vous, cela m'a perdu de pénétrer dans l'intimité de votre vie quotidienne. L'image de cette petite chambre est restée en moi si douce et en même temps si perfide. Je pense à ce que pourrait être ma vie si elle se déroulait à vos côtés, si elle était pour toujours et pour tout indissolublement liée à la vôtre. Je vous aime tant, Madeleine, et ce rêve ne se réalisera jamais. » La tête dans ses deux mains, il pleura, tout le corps secoué par des sanglots. Alors, sans rien dire, emporté par je ne sais quelle amoureuse et maternelle tendresse trop longtemps contenue, j'appuyai sur mon épaule cette pauvre tête si pitoyable et sur mon cou des larmes chaudes tombèrent. Il se calma pourtant. Je ne songeais pas à le repousser. J'avais envie de le bercer comme une mère son enfant. Mais cet enfant reprit conscience de son amour d'homme. Son bras glissa jusqu'à ma taille qu'il serra avec force. Un grand trouble me saisit, suivi d'une brusque réaction. Je crus revoir, comme dans un éclair, la lampe me regardant avec ses yeux profonds, tandis qu'elle me disait « Prenez garde, Madeleine, ne laissez point jaillir l'étincelle. » Et je revis aussi la table sainte, dont il ne faut s'approcher que vêtue de blanc. Je m'arrachai à Jacques et me levai brusquement. Il comprit ce qui se passait en moi, baissa la tête, puis à genoux, me baisant les mains, il me demanda pardon avec cette prière. « Ne me laissez point sans espoir, Madeleine. Promettez-moi que, si c'est possible après la guerre, lorsque je reviendrai, vous serez ma femme. Permettez-moi d'en parler à mon père. » Je ne pouvais rien répondre. Il me fallait le temps de réfléchir. Je suis bien cette fois en face du redoutable parti à prendre. L'heure des demi-mesures est passée. Elle ne pouvait donc pas durer, cette amitié tendre. Il faut choisir. L'amour ou rien. Dimanche 11 février. J'ai vu la lampe ce matin et je me sens soulagée. Merci, mon Dieu. J'avais cherché auprès de vous dans la communion de votre divine substance l'aliment qui fortifie, l'esprit qui éclaire. Vous m'avez envoyé à celle que vous avez mise sur mon chemin pour guider mes pas incertains. C'est ainsi qu'agit votre sage providence. Elle ne fait point de miracles. Elle ne prodigue point les révélations soudaines, illuminatrices. Elle incline doucement notre âme en lui montrant la voie. J'avais passé 2 jours dans d'horribles angoisses. Le doute déchirait mon cœur agité par 1000 sentiments contraires. Il me fallait engager ma vie et, chose plus grave, engager celle d'un jeune homme de 19 ans. Il est vrai, ma responsabilité était à couvert. Il consulterait son père. Mais alors c'était peut-être le non définitif, et j'avais peur de l'irrévocable. J'ai confié cette angoisse à ma grande amie. Elle l'a comprise avec son âme claire et compatissante. Lorsque je suis entrée dans le cher bureau, elle était seule, assise à sa table de travail. Au son de ma voix, elle se leva, toute joyeuse, pour venir au-devant de moi. Mais lorsqu'elle eut remarqué ma mine douloureuse, mes yeux rouges, au lieu de me prendre la main, elle m'ouvrit les bras et m'embrassa. Mes sanglots alors éclatèrent. Je pleurai longtemps, sans dire un mot. Mes nerfs se détendirent et je pus parler. Sur le divan, sous le sévère et impassible visage du stoïcien Juste Lips, je lui ai raconté, tout au long, la scène qui s'était déroulée dans ma petite chambre. Ma téméraire tendresse, mon émotion, la fougue passionnée de mon jeune ami. Elle m'a laissé dire, puis, quand j'eus fini, « Petite imprudente, s'écria-t-elle, comment avez-vous pu consentir à recevoir seule, dans votre chambre, à cette heure si dangereusement émouvante du jour qui tombe, un camarade que vous saviez épris de vous. Vous voilà bien toutes mes sœurs les stoïciennes. Parce que votre âme vit d'un sentiment noble et pur qui domine les sens, vous vous croyez forte, et surtout, vous prêtez à l'homme qui vous aime la même force qu'à vous. C'est une erreur, ma petite amie. Ce beau rêve ne se réalise jamais. Vous trouverez rarement dans le cœur d'un homme, même d'un tout jeune homme, s'il a déjà quelque expérience de l'amour, un sentiment qui soit à la mesure et de la qualité du vôtre. Alors je vous le répète, ne laissez pas l'étincelle jaillir. »
Mais j'ai réagi, repris-je toute rougissante, et lui, il a regretté son audacieuse faiblesse. Il m'a demandé pardon.
Elle sourit, pleine d'indulgence, et reprit.
Sans doute, l'étincelle n'a jailli qu'à demi, il n'y a que demi mal, mais vous n'êtes déjà plus dans le domaine de l'amour idéal. N'hésitez pas, acceptez la proposition de Jacques. Elle est généreuse et parle en faveur de son amour. Lorsque la passion est assez courageuse pour engager toute une vie, elle est de bonne marque. Vous pouvez y consentir.
Mais si son père s'oppose à ce mariage, ai-je répliqué à mon tour tout ému, et il aura mille raisons de le faire, notre différence d'âge, mon manque d'argent, les temps difficiles que nous traversons.
Eh bien, reprit-elle simplement, vous travaillerez tous les deux. Après la guerre, le travail sera le vrai, le meilleur capital. Et pour votre Jacques, ce sera la bonne épreuve, la meilleure sauvegarde de son amour. Je n'en demandais pas davantage. J'avais acquis par ces paroles la seule espérance qui me fût chère en ce moment. Mon sentiment pouvait vivre, je n'avais pas à y renoncer. Avec joie, effusion, le cœur rassuré, j'ai serré la main de ma grande amie. Moi aussi je souriais, la gaieté me revenait. Je comprenais mon émotion maintenant qu'elle avait disparu. La crainte de perdre pour toujours celui que déjà j'aimais infiniment avait été seule cause de ma peine. La lampe saisissait tout ce qui se passait en moi. Elle était heureuse de ma joie. Pourtant, je sentais en elle comme une arrière-pensée. Lorsque je me fus levée pour partir, elle ne put s'empêcher de me dire « Mad, ne soyez pas trop confiante. Ne vous laissez pas aller à votre enthousiasme habituel. Ne mettez pas votre Jacques trop haut. Un jour peut-être viendrait où vous le mettriez trop bas. Il y a de telles surprises en amour. Soyez forte et modérée. » Comme j'attends demain avec impatience. Oui, demain, je lui dirai que j'accepte le don de sa vie en échange de la mienne. Nous serons fiancés dans le secret, des fiancés mystiques. Si nous pouvions l'être devant Dieu. Fin de la section 9, enregistrée par Pauline Latournerie.
Section 10 de La science et l'amour par Léontine Zanta. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Pauline Latournerie. Chapitre 4. 12 février. Quel réveil! Philippe est blessé assez grièvement, nous dit une infirmière dans la lettre qui nous est parvenue ce matin. Il est à l'hôpital d'Amiens où il vient d'être transporté. Son état n'est pas alarmant. Pourtant, on demande instamment et au plus vite quelqu'un de sa famille auprès de lui. Maman est partie. Elle n'a pas même attendu le retour de papa. Elle doit être arrivée maintenant.
Mon Dieu! Est-il mourant? Est-il mort? Cette pensée affreuse me traverse l'esprit. C'est qu'il n'a pas écrit lui-même. Pauvre père, je n'oublierai jamais son retour ce soir. Il ne savait rien quand je suis venue lui ouvrir la porte. Geneviève s'est glissée derrière moi et, avec tendresse, elle a noué ses petits bras autour de son cou en lui disant «
Tu sais, papa, il ne faut pas te tourmenter. Philippe est blessé, mais maman est partie pour le soigner. Il guérira. »
Cette révélation à laquelle nous ne nous attendions pas fut moins dure que tout ce que j'aurais pu dire moi-même de la nouvelle. Papa pâlit affreusement. Il me regarda bien dans les yeux, je lui tendis la lettre. Quand il l'eut parcourue, il reprit sa physionomie habituelle, rendit à Geneviève ses baisers et lui dit d'être bien sage pour que Philippe guérisse bientôt. Le dîner fut silencieux. Une même pensée douloureuse nous étreignait le cœur et les petites pour une fois semblaient nous comprendre. Elle se taisait. Voilà bien la destinée. Hier, je rêvais de vie, d'avenir, d'amour. Aujourd'hui, je me sens plus que jamais serrée dans l'étau du présent, dans cette vie absorbante du foyer, le cœur angoissé pour un frère que j'aime. Elle n'a donc point encore sonné pour moi, l'heure de songer au bonheur. Je n'ai pas vu Jacques. Je ne le verrai pas de quelques jours et j'aime mieux ne pas lui écrire. Que lui dirais-je si je me tais sur la question qui lui tient le plus au cœur? Or, en ce moment, je ne puis pas parler d'amour. J'ai chargé Betty de le prévenir de ce qui se passait chez nous, pour qu'il ne s'inquiétât point de mon absence. Elle l'aura fait, comme elle sait faire toutes choses, avec son cœur. 13 février. Aucune nouvelle encore. Est-ce oui ou non bon signe? J'ai persuadé à papa que si la situation s'était aggravée, nous eussions reçu un télégramme. Il m'a cru. Mais il souffre beaucoup, ce pauvre papa. Un petit bleu plein de délicatesse et d'émotion m'est arrivé de Jacques.
Il comprend que je sois tout à ma tâche, tout à la pensée du cher blessé, et c'est à son chevet que sa pensée à lui vient rejoindre la mienne. Il ne dit rien de nos projets. 14 février. Une lettre de maman, enfin. Philippe va mieux. Il a été touché par un éclat d'obus pendant une nuit de garde. 3 apophyses de vertèbres sont brisées. Il s'en est fallu 1 ou 2 millimètres que le coup fut mortel. 17 février. Maman revient. Philippe est hors de danger et demande sa grande sœur auprès de lui. Il craint de retenir sa mère trop longtemps loin du foyer et d'en priver les petites. Je partirai donc demain matin. Nous nous croiserons sur la route, maman et moi, sans pouvoir nous parler. Je vais écrire un mot à Jacques. Il faut que je le prévienne de mon départ. Pourquoi ne lui dévoilerai-je pas le fond de mon cœur? Je vis des heures graves. Il n'est point malséant que je prenne aussi des décisions graves. Mon ami, je quitte Paris demain. Mon cher blessé me réclame. Combien de temps resterai-je auprès de lui, je n'en sais rien. Aussi, je ne veux pas vous laisser dans l'angoisse de l'attente. Jacques, j'accepte d'être votre femme. Mais je dois ce soir encore imposer silence à mon cœur qui voudrait tendrement vous parler. Je vous répéterai tout ce qu'une réflexion sage et raisonnable m'oblige à vous dire. Jacques, vous m'aimez, j'en ai la certitude, mais vous n'avez pas 20 ans. Votre amour jeune et passionné vous paraît assez fort pour surmonter tous les obstacles qui viendront barrer sa route, mais peut-être ne les avez-vous pas regardés en face. Ils sont grands, ils sont nombreux. Je n'ai pas de fortune, mon ami. Si de votre côté, votre famille vous laisse sans aide matérielle, si l'après-guerre n'a rien changé à l'état actuel des choses et s'il vous faut attendre pendant de longues années encore une situation qui vous permette de vivre et de faire vivre une famille, il sera nécessaire que mon travail se joigne au vôtre. Je ne le redoute pas. J'ajoute même que ce sera pour moi une joie bien douce de contribuer ainsi à l'édifice de notre foyer. Mais les vôtres, votre famille, votre bourgeoisie riche, jugeront-ils de même? Accepteront-ils pour vous le mariage pauvre, le mariage avec une femme plus âgée, le mariage avec une intellectuelle qui donne des leçons? S'ils ne l'acceptent pas, aurez-vous le courage de passer outre, d'attendre votre majorité et de partir dans une vie difficile, sans aide, sans argent? Ah, mon ami, vous ne la connaissez pas, notre vie de pauvre. Elle a des dehors charmants, mais si vous saviez ce qu'il coûte d'efforts, ce maquillage que nous impose notre dignité de classe. Allez, pensez à tout cela. Je vous ai fait en toute sincérité ma confession de pauvre. Pesez le pour et le contre, et puis, le jour où vous serez bien résolu, parlez à votre père. Ne m'écrivez point pendant cette absence, cela vaudra mieux, vous vous recueillerez. Votre cœur, loin de moi, sera plus calme, vous verrez plus clair. Or, il faut voir clair avant de prendre cette décision si grave qui engage votre vie. Si vous aviez encore la foi religieuse, je vous dirais, recueillez-vous en Dieu, cherchez sa lumière. Vous ne l'avez plus, je vous dis alors, recueillez-vous en vous-même, cherchez la lumière de la raison. C'est une manière comme une autre d'aller à Dieu. Moi maintenant, j'ai fini de réfléchir. Je prie. Votre ami. 19 février, je l'ai vu l'hôpital, j'ai vu ce que faisait la guerre. Ce soir, seule dans ma petite chambre d'hôtel, j'essaie de noter mes impressions et je suis encore toute frémissante d'émotion. Non, je n'oublierai jamais cette arrivée au grand séminaire transformé en hôpital. La petite rue étroite qui vous y conduit, la façade sombre de la maison. Au premier infirmier que je vois à la porte, je demande en tremblant le sergent Astier, espérant et redoutant à la fois d'apprendre quelques nouvelles. Il me répond tranquillement, « Au deuxième étage, traversez la cour, la porte à gauche. » J'ouvre cette porte et je monte, le cœur serré, les grandes marches de pierre qui conduisent au premier étage. Là, je croise des malades qu'on transporte sur des brancards à la salle d'opération. Ils sont livides, à peine couverts, frissonnant de froid dans ces grands couloirs sans feu. Le long des murs, sous la pourpre et la mitre, évêques, archevêques, cardinaux, sourient dans leur cadre doré. Je sens mes jambes fléchir. Au hasard, je pousse une porte et je vois une grande salle au lit blanc aligné. Un infirmier s'approche, je lui demande le sergent Astier. « Un étage plus haut,
me répondit-il. À droite, à la salle des sergents. Je reste un moment immobile. Je n'ai plus la force de monter. Mais au fond de moi-même, je m'en veux de cette folle émotion. Il me semble que je ressemble au fameux stoïcien qui dissertait si bien sur l'apathie du sage et qui pâlit le premier lorsque la tempête menaça son vaisseau. Enfin, j'ouvre la porte et me trouve dans une grande salle carrée, bien éclairée, avec de larges fenêtres. Au mur, une tapisserie de papier bleu à fleurs dont les lambeaux pendent çà et là. Au milieu, un grand poêle de fonte, presque rouge, au tuyau tout droit, perçant le plafond. De chaque côté, à ma droite et à ma gauche, trois lits alignés. Ils sont six en tout, mais je n'en vois qu'un. Tout au fond, près de la grande fenêtre, donnant sur les tours de la cathédrale, Philippe, couché sur le côté, la tête tournée vers la porte, avec des yeux agrandis par la souffrance, me regardait. D'un bond, je suis près de lui, et j'embrasse ce front où perlent de grosses gouttes de sueur. Un peu inquiète, je le regarde dans les yeux. Ses yeux se ferment et je comprends qu'il souffre encore. Il m'avoue alors à voix très basse que depuis le départ de maman, comme par un fait exprès, il a de nouveau de la fièvre. Le médecin n'y comprend rien. La plaie se ferme pourtant. Elle est très belle. Mais l'effort qu'il venait de faire pour me parler le laisse haletant. Il doit se taire un instant, puis... « Mad, reviens cet après-midi. Je vais me reposer un peu. Si tu n'as pas entendu ta messe, tu peux y assister à la chapelle de l'hôpital, n'est-ce pas, ma sœur » ajouta-t-il, en tournant ses yeux vers la petite religieuse qui venait d'entrer et s'approchait de son lit, alerte et souriante.
« Mais certainement, dit-elle. Il faut assister à notre messe de 11 heures, mademoiselle. Nous avons une belle messe et un beau sermon de monsieur l'aumônier. Vous montrez à la tribune près de nos religieuses. Eh bien, Astier, vous êtes gâtée. Encore une visite, mon ami. Si vous ne guérissez pas après tout cela, je ne prierai plus pour vous. »
Tandis qu'elle parlait ainsi gaiement, sa physionomie trahissait quelque inquiétude. Elle observait attentivement son malade.
« Mad, descends vite pour ne pas manquer la messe, » répéta encore Philippe. « Sœur Adrienne va s'occuper de moi. »
Je descendis. À la porte, on m'indiqua l'emplacement de la petite chapelle, et lorsque j'y pénétrai, un véritable élan de foi me souleva. Je me sentis en communion, non seulement avec ceux que j'aimais, Jacques, les miens, mais avec tous ceux qui se trouvaient à côté de moi, avec tous ceux qui souffraient et mouraient sur le champ de bataille, avec ceux que la mort avait déjà pris, et mon être se dilatait en participant à la vie de tant d'autres êtres. Je comprenais l'amour universel, l'amour de communion dans le Christ qui doit nous unir tous. J'étais tout autre quand je revins l'après-midi dans le sombre hôpital. J'étais courageuse, j'acceptais la souffrance, au lieu de me laisser inutilement dominer par elle. Je la sentais rédemptrice et voulais la soulager par ma bonne humeur, ma foi optimiste. Je revenais le cœur dilaté, les mains pleines d'oranges, de bonbons, de gâteaux. Je les ai déposés sans bruit à côté des pauvres malades assoupis. Philippe me raconta que c'était une nouvelle fournée qui était arrivée la veille, tous assez gravement blessés, car on les avait transportés directement là, venant de la bataille. Ils souffraient beaucoup et toute la nuit ils les avaient entendus gémir. C'est ce qui expliquait sa fatigue de ce matin, mais déjà il allait mieux. Il pouvait donc m'entendre. C'est alors que je me mis à lui parler de tous et de tout, essayant d'évoquer la vie de notre petite famille dont les moindres détails l'intéressaient. C'était autant d'images douces, fraîches, qui le reposaient. Mardi 20. Il y avait ce soir un bien beau coucher de soleil qui donnait à ces vieux toits d'Amiens, dominés par les hautes tours de la cathédrale, un aspect étrange, mystérieux. Philippe, soulevé sur son lit, il avait eu très peu de fièvre aujourd'hui, le regardait avec moi. Ses yeux étaient pleins de rêves. Il me dit tout à coup « Mad,
ce beau ciel me fait regretter de ne point être amoureux. Regarde à l'autre bout de la salle. »
Je tournai la tête et vis un tableau touchant d'audace et de simplicité. Une jeune femme, dont j'apercevais vaguement la nuque blonde, avait la tête à demi appuyée sur l'oreiller d'un malade. Tous les deux, les paupières closes, pâles, frémissants, semblaient vivre d'une autre vie que la nôtre. L'amour chantait dans cette pauvre salle, car il chantait chez deux êtres jeunes, faits pour la vie et pour créer de la vie. Et l'amour chanta en moi, j'aimais moi aussi, un être jeune et ardent. J'avais déjà senti l'ivresse d'une première caresse, et cette vision la faisait renaître en moi,
J'étais dans une atmosphère d'amour et, comme Philippe, plus que lui, j'ai désiré pendant un instant l'amour. Et pourtant, je ne lui ai rien dit de mon rêve. Mon cœur ne peut point s'ouvrir à lui, tandis qu'il reste fermé à un père, à une mère, à un frère aîné. Je me contentais de répondre. L'amour est une loi. C'est même la seule loi. Dès que la guerre sera finie, nous chercherons pour toi une tendre compagne. Et ce soir, je pense à tous ces jeunes gens que la guerre aura pris, comme Philippe, avant les tentations des amours faciles. Ils seront prêts pour le grand et pur amour du foyer. Ils auront gardé leur bel enthousiasme. À Jacques, il aura manqué cette sublime expérience. Mercredi 21. Ce matin, j'ai reçu une lettre de Jacques. Moi qui croyais qu'il pourrait se recueillir pendant mon absence et garder le silence, comme je connais mal un amoureux de 20 ans. Je lui demandais de réfléchir, mais l'amour ne réfléchit pas à cet âge. Réfléchit-il jamais? Et puis, réfléchir, n'est-ce point tuer l'amour? Mad, ma chère Mad, ma fiancée, vous serez un jour à moi, bien à moi, tout à moi. C'est ce que me dit votre chère lettre qui ne me quitte plus. J'ai besoin à tout instant de la relire. Je la baise avec adoration. Vous acceptez mon amour, vous si grande, si belle, si noble, et je ne rêve pas. Si vous saviez l'homme nouveau que cette espérance d'amour crée en moi, je ne crains plus l'avenir, j'y ai foi, car vous êtes mon avenir, comme je suis le vôtre. Je veux, je peux travailler maintenant, plus rien ne m'arrêtera, car j'ai l'enthousiasme de ce bonheur ineffable d'un amour partagé. Comme il me rend fort, comme je trouve de la douceur en ma tâche. Au cours, je prends des notes avec rage. Il y a quelques jours, ma plume restait immobile entre mes doigts, aujourd'hui elle court sans arrêt sur la feuille blanche. Betty, hier, s'est moquée de moi. Elle se doute de quelque chose. Elle m'a vu passer si rapidement de l'abattement à la joie. Je vous aime, Mad, mais je ne sais pas vous le dire avec des mots. Il faudrait que vous fussiez près de moi. Votre Jacques. Enthousiasme passionné qui m'émeut jusqu'au fond de l'âme et me fait triste et joyeuse tout à la fois. Pauvre Jacques, je n'ai point sa belle confiance. Tant que l'avenir tient encore l'amour prisonnier dans ses voiles, je le redoute. J'en ai peur. Mais chassons cette idée. Elle est déprimante et lâche. Pour vivre, il faut croire et espérer. Jeudi 22. L'impression mélancolique d'hier s'est dissipée. Ma journée a été très bonne. Philippe va vraiment mieux maintenant. Il est resté levé 2 heures ce matin. J'ai guidé ses premiers pas. Ils étaient bien timides car il n'a pas encore recouvré toutes ses forces. Comme c'était bon de le voir aller et venir dans la pauvre salle au mur délabré, s'approcher de ses camarades, les plaisanter, les réconforter. N'était-il pas le vivant exemple d'une guérison rapide, miraculeuse? Sœur Adrienne avait la figure tout illuminée. « Je devrais avoir des remords de te garder ainsi, » me dit tout à coup Philippe. « Tu manques des cours, tu vas payer ce déficit le jour de ton examen, et c'est moi qui en serai cause. » « Sois tranquille, mon bon Philippe, » repris-je vivement. « J'ai un charmant petit camarade qui me prend toutes les notes, suit pour moi tous les cours. Grâce à lui, je n'aurai rien perdu. »« Ah ah, un flirt !» s'écria Philippe, me plaisantant à son tour. « Voyez-vous cette petite Madeleine? Mais puisque nous sommes sur ce sujet, dis-moi donc, Mad, l'impression que te fait à la Sorbonne le mélange des deux sexes, car il doit y avoir un important mélange depuis la guerre, et qui sait peut-être prédominance du beau sexe. Y gagnerons-nous? Y perdrons-nous? Et puis, la grande question qui nous occupe, l'amour perdra-t-il ou gagnera-t-il à cet état de choses? » Me voilà prise au dépourvu, très embarrassée pour répondre. Tout entière absorbée par ma propre aventure, en dehors de notre petit cercle, sauf le couple grotesque de Kant et de Gretchen, je n'avais rien remarqué. La question que me posait Philippe me fit réfléchir. J'essayai alors d'évoquer dans mon souvenir ce milieu de la Sorbonne auquel, en égoïste, j'étais demeurée trop indifférente, et je le vis tout à coup s'animer. J'imaginais la salle de cours telle qu'elle se présente au jour d'affluence, au cours de version latine, par exemple, qui réunit toutes les sections, et j'y remarquai en effet beaucoup de femmes de tous les mondes, de tous les âges. La majorité, les grises, ne sont ni laides ni jolies, se ressemblent un peu toutes, lui dis-je. Elles travaillent parce qu'il faut travailler, que l'enseignement est une carrière comme une autre, comme elles se trompent, celles-là. Elles sont attentives, silencieuses, tristes, et restent isolées. Parmi les autres, quelques-unes donnent une note élégante. Ce sont des jeunes filles du monde. De temps en temps, on les accompagne, on vient les chercher. On sent qu'elles franchissent une étape de liberté, mais qu'elles n'ont pas le droit encore de la franchir seules.
« Je ne vois guère l'amour se glisser dans ces deux groupes, » me dit Philippe.
Et moi, je savais bien que l'amour avait su se glisser. Mais je ne pouvais pas l'avouer sans me trahir.
« Eh bien, » continuai-je avec beaucoup d'assurance pour lui donner le change, « c'est au milieu des tout jeunes qu'il essaie de pénétrer. Des jeunes gens, encore de vrais potaches, recherchent certaines étudiantes à l'allure un peu louche. Ils font ensemble des apartés pendant les cours, à la bibliothèque. Ils se promènent avec elles sur les boulevards, parlent fort, gesticulant, se donnant l'attitude de jeunes conquérants, de sorte que parmi ces toutes jeunes, l'amour manque de tenue.
« Alors, » reprit Philippe, qui m'avait attentivement écouté, « ces faits tendraient à prouver que pendant la guerre, le féminisme fait de la sélection à rebours. Tu sais, nous avons souvent et très sérieusement discuté cette grave question avec mes camarades pendant les heures de repos, et je ne te cache pas que la solution nous a épouvantés.
« Parce que vous êtes des égoïstes, » m'écriai-je assez vivement. « Pour vous, la femme doit toujours rester une esclave, une inférieure. Se développe-t-elle, c'est un danger. »«
Comme tu t'en bats, la faux, Mad, » reprend doucement Philippe. « Voyons, sois juste. Ai-je jamais contrecarré ton idée de poursuivre tes études, de faire dans l'enseignement une carrière ? Tu as l'âme d'un apôtre, toi. Tu resteras toujours humaine et tu feras du bien. Mais les autres, les moyennes, les grises dont tu parles, elles ont renoncé au mariage, à la famille, à la foi, peut-être. Que trouveront-elles à la place ? Non, j'ai beau réfléchir, Mad, je ne vois pas ce que nous gagnerons à cette armée de bachelières, de licenciés, de certifiés, d'agrégés, faisant irruption demain dans notre société d'après-guerre.
« Mais que veux-tu qu'elles fassent, ces jeunes filles ? » repris-je impatienté. « Elles sont de cette malheureuse classe moyenne qui souffre toujours sans réclamer. Elles sont la plupart de milieux distingués, mais sans fortune. » Par suite vouées au célibat. Après la guerre, les rares chances qu'elles avaient de se marier auront disparu. Alors où veux-tu qu'elles se dirigent ?
Dans le commerce, dans l'industrie, la mode, que sais-je, moi. Mais dans des milieux où elles gagneront de quoi vivre et où elles trouveront peut-être un compagnon de route. Pour réussir dans l'enseignement, il faut non seulement une vocation, mais la vie en surabondance, car il faut la prodiguer. Tes grises en manquent pour elles. Comment veux-tu qu'elles en donnent aux autres ?
Comme il dit vrai, mon cher petit frère, et il n'est pourtant pas philosophe. Qui sait si ces pauvres grises n'auraient pas trouvé ailleurs qu'à la Sorbonne un milieu où s'épanouir ? Quant à nous, l'élite, comme il nous appelle pompeusement, nous risquons, d'après lui, de monter si haut que nous serons inaccessibles.
« Eh bien, nous serons perdus pour l'amour, » lui dis-je résolument.
« Oh, l'amour vous perdra, »
ajouta-t-il avec une pointe de malice. Au fond de moi-même, je me moquais de sa prédiction, car je pensais que je saurais bien concilier les exigences de la vie du cœur et celles de l'esprit.
Fin de la section 10, enregistrée par Pauline Latournerie.